France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet.
Agnieszka Hollande, on dit en France. Je suis cinéaste polonaise.
Premier épisode, dans la Pologne communiste d'après-guerre. Bonjour Agnieszka Hollande.
Bonjour.
Je l'ai dit correctement ?
Très bien.
En même temps, on peut le dire aussi à la française, puisque vous vivez une très grande partie de votre vie en France.
Bah, surtout en Bretagne.
Et surtout plus précisément en Bretagne, où vous nous recevez.
Qui n'était pas la France.
Maintenant, ça l'est quand même un petit peu. Hein.
Oui, même beaucoup.
Même beaucoup, même complètement. Et merci beaucoup de nous recevoir. Ici, on est presque dans la campagne, au bord de la mer, au Cap Fréhel. C'est rare, Agnieszka Hollande, d'avoir la chance de rencontrer une cinéaste européenne, on va le dire comme ça, de votre trempe. De fait, un certain nombre de vos films ont été sélectionnés dans des festivals internationaux. Certains ont remporté des grands prix, le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère pour Europa Europa, qui était également nominé pour l'Espoir, le prix Alfred Bauer, un ours d'argent, à Berlin pour Tableau de chasse, le prix spécial donc du jury à Venise pour Green Border, trois fois le Lion d'or du festival du film polonais de Gdynia. Et pourtant, Agnieszka Hollande, on a le sentiment que vous n'êtes pas reconnue en France, en tout cas, pas populaire, pas connue, peut-être reconnue et pas connue, à la hauteur, non seulement de ces prix internationaux, mais de votre œuvre. Est-ce que vous partagez ce sentiment d'une reconnaissance dans le monde du cinéma et peut-être encore d'un manque de popularité de vos films? Et si oui, comment l'expliquez-vous?
Quand je suis venue en France comme émigrée politique à la suite de l'état de guerre en Pologne en décembre 1981, je ne peux pas me plaindre parce que j'étais bien accueillie. Et finalement, j'avais même la possibilité de réaliser quelques de mes films en France. Mais j'avais l'impression que, surtout la critique française, parce qu'à l'époque encore, maintenant c'est un peu moins peut-être, mais à l'époque, la critique a joué des festivals, certains festivals, surtout Cannes, la critique a joué un rôle primordial dans le lancement des cinéastes. Et moi, j'avais l'impression que je ne suis pas compris hein, par que j'étais pas exactement dans la vague des goûts cinématographiques, surtout de la critique. Et en même temps, mes films ont reçu pas seulement les récompenses, mais aussi un succès plus populaire dans les pays anglo-saxons. Et je pensais que, surtout en Amérique, mais aussi en Angleterre, j'étais mieux reçue qu'en France. Et je me suis dit que peut-être ma façon de raconter, certaines transparences de mon style, certaines rationalités de récit qui est poétique seulement au-dessus de la ligne narrative, où le symbolisme est très discret, que c'est pas exactement ça qui plaît ou plaisait à l'époque à l'opinion publique, en tout cas à l'opinion critique en France. Et quand je suis allée en Amérique, c'était un peu à cause de ça, parce que j'avais l'impression que je suis un peu, en France, je suis un peu une pauvre cousine. Et en Amérique, j'ai reçu tout de suite pas seulement beaucoup de propositions, mais aussi beaucoup de compréhension exactement de ma façon de raconter les histoires. C'était plus compatible, même si pour moi le cinéma américain était moins proche ou moins attractif que le cinéma européen. C'était un peu le paradoxe. J'étais mieux reçue dans des pays ou dans des cinémas qui n'étaient jamais ma patrie complètement.
Entre l'Europe et les États-Unis, donc, double nationalité qui est la vôtre, française et polonaise, une nationalité, une identité multiple et peut-être même qui fait de vous une citoyenne du monde. Est-ce que vous êtes une cinéaste internationale ou est-ce que vous vivez avant tout quand même comme une cinéaste européenne, malgré ce que vous venez de dire?
Je me sens plutôt une cinéaste européenne. En même temps, l'avantage, en tout cas à l'époque, maintenant, le paysage change un peu partout, aussi à cause des plateformes. Paradoxalement, avec des plateformes, ils s'internationalisent plus qu'avant. Même les langues, à l'époque, dans les années 80, 90, c'était très difficile de tourner un film international dans une langue qui n'était pas anglaise. Même si l'histoire n'était pas anglophone. Aujourd'hui, avec Netflix ou les autres plateformes, on peut tourner les séries ou des films dans des langues différentes. Ils sont distribués dans la même façon. Ils peuvent accéder au public global. Ça, c'est l'avantage des plateformes. Le public est devenu plus global. Et pas seulement anglophone. Bien sûr, des produits anglophones, le contenu anglophone est toujours la plus reconnue, mais en même titre, de temps en temps, peuvent exister même les séries, par exemple, sud-coréennes, ce qui était impensable il y a 20-30 ans. Et moi, j'ai multiples identités. Je me sens polonaise, juive, européenne, cinéaste, intellectuelle, même si c'est un peu prétentieux quand je dis intellectuelle. Mais en tout cas, quelqu'un qui pense le monde, si l'intellectuel signifie que vous pensez le monde, que vous suivez et pensez le monde, et essayez de le décrire, de le comprendre, ou de le changer. Je suis une activiste aussi, je suis une mère, je suis la fille, je suis sœur, je suis une femme surtout. Et je n'aime pas quand on oublie les autres facettes de moi-même. Et je pense que ça commençait en Pologne quand j'étais enfant, parce que j'étais née dans une famille qui était juivo-polonaise, ça veut dire mon père était juif, ma mère est polonaise, polonaise de souche, polonaise d'origine. Dans les pays où l'antisémitisme, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, était très violent et qui n'a jamais complètement disparu, même si les Juifs ont pratiquement disparu des paysages polonais. Être en même temps juif et polonaise, c'est un combat que j'ai pour la première fois rencontré quand j'avais 6 ans.
Vous êtes né en 1948.
48, oui, à la fin de 48, ça veut dire 3 ans après la guerre. À Varsovie, qui était une ville très blessée. 90% de Varsovie était anéantie hein, pendant d'abord l'invasion allemande à 1939, après la liquidation des ghettos de Varsovie hein, et l'insurrection dans le ghetto de Varsovie où cette partie de Varsovie était brûlée. Et après l'insurrection de Varsovie faite par la résistance polonaise, où la reste pratiquement de la ville, à part des quartiers où habitaient les Allemands, était anéanti. J'étais née entourée par les ruines, c'était mon terrain de jeu. Ce qui n'était pas si mal pour l'enfant, je peux vous dire, parce que c'était plein de cachets, c'était plein de mystères. C'était en paix comme, je ne sais pas, les paysages irréels qu'on pouvait transformer dans n'importe quoi. Le seul danger, c'était qu'il y avait on pouvait trouver des bombes ou des obus surtout. Parce que les mines, c'était assez bien de miner. Mais les obus, c'était assez bien. Par exemple, mes petites camarades ont explosé sur un obus comme ça. Mais c'est aussi excitant. Ça veut dire, j'ai le sentiment de cette enfance qu'elle était très intense et qu'elle m'a donné beaucoup de terrain pour imaginer.
Vos parents vous protégeaient? Vos parents vous laissaient libre?
J'étais plutôt libre. On avait, dans ma génération, et encore dans la génération de ma fille qui a 50 ans, les enfants étaient libres. C'est aujourd'hui que les enfants sont si entourés dans de grandes villes que pratiquement ils n'ont aucune indépendance exactement. Ce qui peut être très bien pour leur sécurité, mais en même temps, cette protection les déprive de chercher, de trouver des choses inattendues. Hein.
Vous évoquiez, Agnieszka Holland, la résistance polonaise. Votre mère a participé à la résistance polonaise.
Oui, ma mère, comme une fille très jeune, je pense qu'elle avait 16 ans, quand elle a accédé au mouvement de la résistance, l'armée de Armia Krajowa, Home Army, l'armée de la maison. En tout cas, c'était la force principale, la plus grande de la résistance polonaise, qui était d'ailleurs très, très nombreuse. Il y avait plusieurs réseaux, plusieurs identifications politiques, parce qu'il y avait aussi l'armée de gauche. Mais celle-là était, bon, c'était le plus facile de trouver un accès à cette armée-là. Et ma mère était dans cette résistance, elle a fait des petites choses. Après, elle a participé aussi dans l'insurrection de Varsovie, qui était un combat très cruel et très... Bon, je pense que c'était un grand choc pour sa génération. Choc et trauma. Mais ça qui l'a formée peut-être encore plus, c'était le fait qu'elle, comme les témoins, elle a vu... Shoah, de près, ça veut dire elle a vu les sorts des Juifs, elle a vu qu'est-ce qui se passe dans les ghettos. Et très jeune, elle a trouvé avec une de ses amies des façons pour sauver, aider les gens, les Juifs, un jeune Juif qui a escapé des ghettos et qu'elle a présenté comme son fiancé. Et après, une jeune famille juive, la femme était enceinte, mais ma mère et sa copine ont aidé les cacher et de leur fabriquer les faux documents et de s'occuper de la naissance de Piotrusz, comme il s'appelait Piotr, Pierre, le petit garçon qui était né là. Et elle et sa copine ont fait une espèce de promesse que s'ils vont survivre la guerre, ils vont se marier avec les Juifs et de faire des enfants juifs. Et les deux ont tenu cette promesse parce que Danka, sa copine, elle s'est mariée avec un jeune Juif. Et ma mère, elle s'est mariée avec mon père. En tout cas, pour ma mère, je ne pense pas que c'était le meilleur... la meilleure raison de se marier, cette promesse, il n'était pas vraiment compatible. Le mariage.
Ils s'entendaient pas très bien, vous voulez dire.
C'était pas seulement qu'ils s'attendaient pas, je pense qu'ils ne comprenaient pas. Ma mère, quand elle était déjà très vieille, elle m'a dit d'un coup qu'elle a compris mon père, qui était dans ce moment-là mort depuis des années. Quand elle s'imaginait à quel point il était traumatisé par le fait que quand il est revenu d'Union soviétique, où il a passé la guerre, il était jeune communiste même avant la guerre, il avait 19 ans quand la guerre a commencé, mais il était très fervent, intelligent, très leader, quelqu'un qui a cherché les... Et il a passé de la guerre d'abord dans l'armée soviétique, après dans l'armée polonaise organisée par Staline, et il est revenu en Pologne avec cette armée, sans savoir que sa ville, Varsovie, est complètement en ruine et que toute sa famille est morte.
Les grands-parents dans le ghetto de Varsovie, oui, et une autre partie de la famille assassinée à Treblinka, notamment, dans des camps d'extermination.
Avec certains, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas, toute la famille, à part d'une sœur qui s'est retrouvée après la guerre, et cousine, a disparu. Je pense qu'il s'est jamais remis complètement de ça, tant plus qu'il n'a jamais parlé de ça. Et mon père m'a jamais parlé de sa famille. Il est mort quand j'avais 13 ans. Lui, il avait 40 ans. Jusqu'à ce moment-là, je même savais pas comment ils s'appelaient mes grands-parents.
C'est qu'il ne répondait pas à vos questions ou vous-même n'osiez pas poser de questions?
Non, j'ai pas posé de questions. Il n'a pas parlé beaucoup à moi de ça, de passé. Ni de l'armée, ni de la guerre, ni de sa famille, ni de sa judaïté. C'était ma mère qui m'a expliqué que je suis juive. Ça se passait parce que j'étais attaquée par les enfants sur les cours.
Même si on est juif plutôt par la mère.
Oui, mais dites ça aux antisémites polonais. Selon les ordres de Nuremberg, non plus. Hein. Je pense que ça va dans la quatrième génération.
Si un des deux parents était juif, l'enfant était juif.
Oui. C'est pas rationnel d'être juif, c'est pas même raciste, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est mythologique presque, ça veut dire c'est quelque chose qui dépasse les côtés rationnels, économiques ou quelconque. Mais en tout cas, ma mère après m'a dit, et je suis revenue à la maison après cette bataille, et je demandais à ma mère, est-ce que je suis juif, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit oui, ton père est juif. Après, elle m'a raconté l'histoire de martyrologie juive. Et pour elle, être juif, ça veut dire être la victime d'une grande injustice et la crime contre l'humanité. Et il faut être fier qu'on est juif parce que ce sont les justes. Ceux qui sont les martyrs, ils sont les justes. C'était un peu ça. Et sa façon de voir la judaïté, c'était sur cet angle-là. Et moi, je l'ai repris d'elle en paix. Je connaissais, à vrai dire, rien du tout sur la culture juive, sur la religion, sur l'histoire des juifs, ni en Pologne, ni dans le monde entier. Je connaissais que le Holocauste.
Dans les autres identités, puisque dès votre enfance, dès votre naissance, vous disiez que vous aviez eu de multiples identités, dans celle de vos parents, il y a aussi le fait qu'ils étaient journalistes, enfin votre père... notamment, était journaliste. Il a couvert des grands événements, et notamment les grands procès du stalinisme au début des années 50.
Oui, je pense que c'était pour lui un deuxième choc après son retour de la guerre, parce qu'il était vraiment le communiste ferrant, le staliniste même, assez fanatique. Il a lutté à certains moments contre les vieux professeurs de philosophie sur l'université où il a étudié après la guerre, qu'il était bourgeois et tout ça. Ça veut dire, et c'est ça d'ailleurs qui revient de temps en temps hein, dans la parole de la droite polonaise quand il parle de moi, que je suis issue de la tradition judéo-communiste. Mais après, il était croyant, il est devenu à un moment quand il a compris la possibilité d'abord et après la confirmation des crimes de Staline.
Notamment après le rapport Khrouchtchev.
Surtout après le rapport Khrouchtchev. Il a changé, il a essayé de trouver à quoi vraiment il croit? Est-ce que le stalinisme, c'est le communisme ou est-ce que c'est plutôt la dérive de communisme? Mais il est devenu assez sceptique de journalisme. Et il a cessé d'être le journaliste. Il a fait le doctorat en sociologie et c'était ça, c'était la carrière qu'il a voulu suivre. Ma mère, par contre, qui n'était jamais la journaliste politique, elle était plutôt la journaliste sociale. Elle est devenue la rédactrice en chef d'une hebdomadaire pour la jeunesse de la campagne. Et c'était pour moi sa rédaction, c'était pour moi aussi, mais un tout petit peu, l'école de voir des gens différents, pas les gens de la ville. Et d'être ouvert aux expériences différentes, aux identités différentes. Parce que la rédaction, c'était les textes, bien sûr, qui étaient souvent assez éducatifs, mais c'était aussi l'échange avec les lecteurs. Et beaucoup de lettres qui ont venu des lecteurs, beaucoup de concours, de journaux, de journaux intimes, de témoignages de jeunes différents. Je les lis tous, ça m'a fasciné. Et aussi, de temps en temps, je voyageais avec elle quand elle avait fait ses déplacements pour rencontrer les lecteurs ou pour organiser certaines choses. D'ailleurs, il faut dire que le communisme en Pologne a apporté pas seulement le manque de la liberté, la censure et la répression, mais aussi les changements très, très grands sociaux, surtout pour la campagne, qui était lamentablement pauvre. Il est très pas électrifié. Les communistes, c'était la réforme agricultaire. C'était aussi l'éducation à tout le monde, la possibilité d'avance sociale, électrification. Et aussi, il y avait, parce qu'ils ont voulu combattre l'Église, ils ont essayé de créer les liens culturels à la campagne, qui était indépendant de l'Église catholique. Ce qu'aujourd'hui, on voit que c'était très positif, mais malheureusement, c'était pas suivi après par les démocrates, après la chute du communisme. L'Église a repris la place unique dans les églises polonaises, qu'on voit maintenant aussi dans les résultats des élections consécutives. Mais en tout cas, oui, je pense que c'était... Ma mère, elle avait cette gêne de la justice qui la poussait aussi, comme la fille si gêne, d'aider les Juifs, de s'occuper des gens qui sont en nécessité. Comme ça, ma maison familiale était toujours pleine de gens qui l'a amenée de quelque part, ou une famille lointaine de la campagne, ou des gens complètement étrangers qui ont eu besoin d'être aidés, ou... et qui ont habité chez nous pendant des mois et des mois et des mois.
C'est aussi elle, votre mère, qui a fait votre culture littéraire, en tout cas, Agnieszka Holland, puisque quand vous étiez enfant, vous avez dû passer de longs mois à l'hôpital, vous aviez une déficience cardiaque, je crois, quand vous étiez petite. Vous dessiniez beaucoup, vous auriez bien aimé devenir peintre, mais votre mère vous apportait aussi beaucoup de livres. C'est là que vous avez commencé à lire, à dévorer les grands classiques.
Oui, je dévorais tout, hein, les grands classiques, aussi la littérature de socialisme, réalisme socialiste, des livres hongrois, roumains, soviétiques, etc., etc. Je lisais tout.
Français aussi.
Français, oui. Je lis tout Zola, oui. Balzac aussi, Hugo. Mais je lisais toute la classique polonaise aussi, qui est pas très excitant pour les étrangers, mais je la connaissais par cœur. J'ai devenu un lecteur très, très éduqué. Où se mélangeait tout, les choses qui étaient sans aucune valeur littéraire et des choses de la grande littérature. J'avais trois chocs au moment quand j'étais plus consciente, quand j'ai passé l'âge de 13-14 ans. Et c'était Kafka que j'ai déjà dit, c'était aussi Thomas Mann, un écrivain qui m'a beaucoup marqué, Tchekhov, c'était quelqu'un un peu comme Kafka, qui m'était très proche
plus
aussi comme personnage.
Plus que Tolstoï, plus que Dostoïevski.
Dostoïevski, oui, il y avait une période où Dostoïevski, c'était que j'étais malade de Dostoïevski. Hein. Je lisais tout sans arrêt, les nuits, etc. Je lisais.
Vous disiez tout à l'heure, Agnieszka Holland, qu'à 13 ans, vous avez perdu votre père. On est en 1961. Votre père, en fait, il a été accusé d'espionnage par les services secrets. Mm-hmm. À tort. On dit, dans tous les cas, c'est aussi ce que vous avez appris dans le journal, quand vous étiez petite, mais qu'il aurait sauté par la fenêtre, se serait suicidé. On a dit ça de beaucoup d'accusés.
Oui, ça veut dire qu'on a pensé à l'époque, tous ses amis, aussi la famille, étaient sûrs qu'elle est commentateur étranger aussi, que c'était un assassinat, ça veut dire qu'elle était poussée par la fenêtre. Et que c'est une espèce de la provocation dans la lutte entre deux branches des partis communistes, plus nationalistes, moins nationalistes. Mais en réalité, c'était ça, en fait, c'était son arrestation, accusation, c'était une provocation comme ça. Mais sa mort, apparemment, était volontaire. Ça veut dire qu'il était interrogé pendant 48 heures. Après, il était amené à son appartement. On n'a pas habité ensemble à l'époque déjà. Ils se sont divorcés, mes parents. C'était le décembre, ça veut dire les fenêtres étaient fermées, son appartement était tout petit, c'était un studio. Il y avait trois ou quatre des officiers de police secrets, et pourtant il a réussi d'ouvrir la fenêtre et de sauter. Mais je pense que ça s'est passé comme ça parce qu'il y a même un enregistrement de cette situation qui était bien sûr trouvé après la chute du communisme. Avant, on pouvait s'imaginer seulement qu'est-ce que se passait.
Qu'est-ce que vous diriez de cette enfance qui a été la vôtre, globalement, Agnieszka Holland? Est-ce que vous diriez que tout ce que vous nous avez dit là, par exemple, explique que vous êtes devenue la femme que vous êtes devenue?
Oui, assurément, on a fait des pièces différentes. C'est difficile, même les psychologues les plus talentueux sont incapables de déchiffrer exactement les raisons pourquoi on fait le choix qu'on fait, pourquoi on a de la force ou la faiblesse de caractère ou de la sensibilité. Ça s'explique par certains événements qui se passent dans la vie, ça s'explique par les gènes, mais c'est mystérieux toujours. Moi, j'avais plusieurs fois dans ma vie, j'avais des coups assez forts qui ont mis par terre, mais à chaque fois, je me suis réveillée,
relevée,
s'est levée. Et il y a des autres gens qui n'arrivent pas à survivre saine, cette espèce des expériences. Ça ne veut pas dire que je suis meilleure. Ou même la force, c'est un peu une notion ambiguë. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? La force, ça peut dire aussi le manque de la sensibilité. Ça peut dire aussi le manque d'empathie. Hein. Ça peut dire aussi le narcissisme clinique, parce que les narcissistes sont assez forts. Hein. Et voilà, ça veut dire, je juge pas, je peux expliquer par une chose assurément, ça veut dire les fois très profonds que ma mère a eu en moi. Ça veut dire, elle pouvait être assez critique, elle me corrigeait ou elle exprimait certains mécontentements, mais en même temps, je sentais toujours qu'elle me pose pas de barrières, hein, qu'elle croit que si je fais faire quelque chose, je peux le faire, je vais le faire. Et je pense que c'est ça qui m'a façonné à, mais ça peut pas être seulement cette chose-là, il y a des autres aussi.
Mais peut-être aussi une forme de révolte qu'on retrouve, là, je ne m'adresse pas à la femme, plutôt à la cinéaste en vous, là, mais peut-être une forme de révolte contre l'injustice, contre toute forme d'injustice, contre le mensonge. Peut-être cette enfance vous a-t-elle aussi vaccinée contre les idéologies? En tous les cas, c'est spontanément, c'est ce qu'on a envie de penser.
Oui, je pense que oui, qu'à ce jeune, j'ai rejeté toutes les idéologies de ce genre-là. Comme les idéologies, il y avait quelques grandes idéologies au XXe siècle, tous ont échoué, on peut dire. Et je voyais dans la vie quotidienne à quoi ça change, cette espèce d'idéologie politique. Et quand je pense 16-17 ans, j'essaie d'être intéressée dans la politique tout court. Et je pensais que c'est quelque chose qui est vulgaire et qui est injuste et que je voyais aucun espoir dans la lutte politique. Et c'est l'art qui est un espace plutôt de la liberté où on peut réaliser des choses qui sont pas compatibles avec exactement les idéologies ou les croyances où l'homme doit être libre s'il veut vraiment exprimer l'essentiel.
Et cet art, c'est l'art cinématographique que vous avez choisi. Nous verrons ça dans l'épisode suivant, à Agnieszka Holland. Vous l'avez vu dans un pays qui n'était pas très loin du vôtre, qui était la Tchécoslovaquie, à l'époque où vous partez à l'école de cinéma à Prague. Mais là, vous avez été rattrapé par la politique, parce que dans ces années-là, on était toujours rattrapé par la politique. On vous retrouve demain pour l'épisode 2, à l'école de Prague. Merci et à demain.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Agnieszka Holland, réalisation Laurent Polleré, prise de son Nicolas Mathias, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.